Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Si l'on en parlait, donc toujours en direct. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une Montpellierenne d'il y a 30 ans. Vous êtes
une Montpellierenne de cœur.
De cœur, voilà. Madame Perrin, donc, qui est notaire sur Montpellier et qui, on va en parler ensemble, et qui depuis quelques mois, quelques années...
Depuis le mois de septembre, exactement.
Voilà, se tourne de plus en plus sur... l'avenir à Montpellier.
L'avenir de la ville et l'avenir de sa métropole.
Voilà. Bonjour, Madame Perrin.
Alors, bonjour.
On va déjà commencer. Vous êtes notaire. C'est un peu le sens aussi de notre émission. C'était programmé d'être notaire ou c'est arrivé comme ça?
Alors, je vous dirais qu'être notaire, c'est un accident de la vie, mais c'est un bon accident. Quand j'étais jeune, je faisais peu d'efforts et j'étais régulièrement en tête de classe. J'ai commencé par vouloir être médecin. Et dans ma tête, je ne pouvais pas louper parce que j'avais toujours tout réussi. Manque de bol, gros échec.
Ah.
Donc, perte d'estime de moi parce que sans forcer, j'avais toujours tout réussi. Et là, tout d'un coup, je me mettais à bosser et ça ne marchait pas. Je voulais arrêter mes études. Et à cette époque-là, mon père m'a dit « Écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu vas à la fac. Et si tu ne vas pas à la fac... Ça va peut-être vous faire sourire, je vous colle caissière à Intermarché. Je te colle caissière à Intermarché. » Et pourquoi me disait-il ça? Parce qu'il avait un ami qui avait des Intermarchés. Et je me revois ce jour-là me dire « mais c'est pas possible, c'est ce qu'il va faire ». Et j'ai réfléchi très très vite. Et ma meilleure amie faisait ses études à Montpellier, parce que moi à l'époque j'étais étudiante à Lyon. Et elle faisait droit à Montpellier. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire droit à Montpellier.
D'accord. Voilà. Mais déjà avec une vue sur le notariat ou pas du tout?
Pas du tout. Je ne savais même pas ce qu'était un notaire à l'époque.
Ouais.
C'est, on va dire, les rencontres que j'ai faites dans ma vie, le feeling que j'avais avec les matières à la fac de droit qui ont fait que petit à petit, j'ai fait mes choix.
D'accord.
Et je ne regrette pas parce que c'est un métier que j'adore, je me régale.
Oui. Ben oui, parce que là, vous voyez toutes sortes de personnes. Vous voyez des personnes qui sont contentes d'avoir vendu un bien, des personnes contentes d'avoir aussi acheté quelque chose. C'est bien.
Alors, on ne fait pas que ça. Déjà, c'est un métier qui est très varié parce qu'on travaille à la fois avec les particuliers, à la fois avec les professionnels.
Mmh.
On voit toutes les tranches de la population. C'est un métier qui est très technique. C'est aussi un métier qui est très humain parce qu'on touche à l'affect toute la journée. Hein. Acheter une maison,
ça
c'est de l'affect.
Ça a changé le statut de notaire. Hein.
Voilà, divorcer, c'est de l'affect. Hériter, c'est de l'affect. Donner, c'est de l'affect. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'humains dans notre métier et aussi beaucoup de techniques. Donc, du coup, c'est très varié. C'est pour ça que j'aime énormément ce métier-là.
D'accord. Alors, ce métier-là que vous aimez n'enlève rien le fait que vous êtes tourné un peu sur la vie à Montpellier. Regardez un peu tout ça. Je suppose pour préparer les municipales.
Je vous le confirme.
Dans 2 ans. Voilà. Et donc, on va discuter ensemble de ce que vous voyez pour nous, Montpellierains, sur divers sujets. Alors, d'abord, je voudrais commencer, puisqu'on fait, ça sera la liaison un peu entre votre travail de notaire et votre action maintenant, c'est le logement. On entend, vous êtes bien placé pour le savoir, on entend parler de la crise du logement. Alors, moi, pas plus bête qu'un autre, je tourne à la tête de partout, je vois des grues de partout, aussi bien sur Montpellier que sur la métropole, il y a vraiment un problème au niveau du logement?
Il y a un réel problème. D'une part, quand notre maire a été élu, il a voulu stopper la construction. Au début, il a bien indiqué qu'on délivrerait moins de permis de construire à Montpellier, en sachant qu'on a un taux migratoire positif. Donc ça posait déjà un problème et qu'on était déjà en situation de tension de marché locatif, puisqu'on avait plus de demandes de logement que d'offres de logement.
On a la plus forte, je crois qu'en 2023, on a le plus fort taux de démographie en France.
Tout à fait.
C'est ça, hein,
oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Et après, donc il y a eu une mise en place d'une politique où on a freiné volontairement le logement. Et à cette politique-là, c'est ajouté, a posteriori, une crise nationale du logement, puisque l'État a décidé de se désengager. L'État n'aide plus aux finances au financement du logement au travers de lois de défiscalisation. Les taux d'intérêt se sont mis à monter et donc tout cumulé, cela a fait qu'on est rentré dans une crise du logement. C'est-à-dire qu'on ne construit plus, que ce soit sur notre territoire ou que ce soit en France. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette crise du logement va devenir une vraie crise sociale, en tout cas chez nous, parce qu'il y a un réel besoin de logement.
Et quand vous parlez, maître, de logement, c'est logements sociaux, mais aussi logements privés.
Alors, je vous dirai
sur le social.
Alors, je vous dirai que quand on parle de logement, il faut commencer, quitte à vous choquer, à parler de logement privé. Alors pourquoi ? Parce que sans logement privé, vous ne pouvez pas financer la construction du logement social. Le prix de vente des logements sociaux, d'accord, aux bailleurs sociaux, ne permet pas à un promoteur de gagner sa vie. C'est-à-dire qu'au mieux, il a un bilan à zéro, au pire, il a un bilan négatif. D'accord ? Donc si on ne peut pas construire du logement privé et le vendre à un certain prix pour qu'on ait un bilan d'opération qui soit positif, on ne peut pas construire de logement social.
D'accord. Mais de toute façon, sur Montpellier, on a peut-être un problème aussi plus important qu'ailleurs, c'est qu'on n'a plus de réserve foncière. On est vraiment scotché entre, on va dire, le cordon littoral, Latte, Palavas, et de l'autre côté, avec la garrigue du Pic-Saint-Loup. On n'a plus de réserve foncière,
non ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Mais alors, c'est votre droit.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est qu'il reste des endroits où on peut imaginer de la reconstruction de la ville sur la ville ou de la surélévation, d'accord ? Donc, on a une zone qui est la ZAC de la Restanque, où bon an, mal an, petit à petit, du logement se construit, d'accord ? Donc ça, c'est la reconstruction de la ville sur la ville. Mm-hmm. Il va se passer la même chose au niveau du Fenouillet. Voilà, oui. Ça va avec le nouveau PLUI, ça va bouger au niveau du Fenouillet. Après, on a certaines zones où on a déjà des logements collectifs qui ont été construits dans les années 70 à une certaine hauteur. Souvent, ce sont des bâtiments en R+3. Et on pourrait très bien imaginer que la copropriété qui est propriétaire du droit de surélever, c'est-à-dire du droit de construire, vende ce droit pour qu'on surélève de 2 ou 3 étages ces bâtiments. Alors, quel intérêt aurait la copropriété à faire ça ? Ça permettrait, en fin de compte, de rénover les bâtiments, de les rendre éco-responsables et de permettre aux copropriétaires de consommer moins d'énergie et d'avoir des appartements beaucoup plus confortables. Donc, si on s'amuse, si vous voulez, à répertorier toutes les zones sur lesquelles on peut reconstruire la ville sur la ville, comme la ZAC de la Restanque, comme je vous le disais tout à l'heure, le Fenouillet, ou certaines zones où on a déjà du collectif, mais du collectif sur lequel on pourrait surélever, on a encore de la réserve foncière à Montpellier.
D'accord, donc on va dire en vertical et puis en horizontal. Et sur les...
Et cela sans toucher au quartier de Villa, parce que j'estime qu'on a une population qui est variée et que toutes les tranches de la population doivent pouvoir trouver un intérêt dans leur habitat.
D'accord. Et sur les programmes de rénovation tels qu'à La Paillade, tels qu'aux Cévennes, aux Petits Bars, on doit continuer à rénover ces appartements ou pas ?
Alors, je pense qu'il est nécessaire de les rénover, parce qu'il y a certains habitats qui relèvent, à mon sens, de l'habitat indigne. Et ce n'est pas normal qu'on loge les gens dans ces conditions-là. Après, la difficulté, c'est que quand on veut bénéficier d'aides, comme des aides qu'on appelle dans le programme ANRU, ça nécessite de déplacer les populations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démolir et reconstruire au même endroit et reloger la même population. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Souvent, quand vous discutez avec les habitants de ces quartiers, parce que j'y vais dans ces quartiers, et c'est des questions que j'ai posées, ils sont bien dans leur quartier. Et ils n'ont pas spécialement envie de déménager. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va les rénover. Si on tient compte des besoins de ces habitants-là, on les rénove avec moins d'aide. Et du coup, ça peut être un petit peu plus compliqué, ou en tout cas plus long.
Alors, c'est une bombe à retardement, le logement ?
Oui, pour moi, c'est une vraie bombe à retardement et c'est un vrai sujet de société.
Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment là, rapidement, pour au moins essayer d'éteindre ce brasier ou ce futur brasier ?
Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, en l'état de la politique nationale, ça va quand même être très difficile de faire quelque chose. Il faut que les taux déjà d'intérêt commencent à baisser. Petit à petit,
ça baisse.
Je sais que les promoteurs se posent beaucoup de questions aujourd'hui et essaient de bien comprendre les besoins du marché pour proposer des produits qui correspondent aux besoins du marché. Mais en l'état actuel et en l'absence de régime de défiscalisation, ça veut dire que le logement qui va être produit demain à Montpellier, ce sera du logement qui sera beaucoup plus tourné vers de la résidence principale que vers du locatif. Je pense qu'il y aura moins de locatifs parce qu'il y aura moins d'incitation à l'investissement locatif.
D'accord, très bien. Alors, on revient maintenant sur la deuxième partie. Donc, comment vous êtes arrivé à vous intéresser donc, à la vie de vos concitoyens?
Alors déjà, bon,
c'est récent?
Alors, c'est oui et non, parce que j'habite quand même Montpellier depuis 1991. Voilà, j'y suis arrivée étudiante.
Vous êtes des nôtres.
Voilà, et je suis très attachée à cette ville. Dès que je suis arrivée à Montpellier, je me suis sentie chez moi, ce qui n'avait pas été le cas sur mes deux premières années d'études à Lyon. Je trouve que cette ville, elle est ouverte, on vit dehors, on va facilement à la rencontre des autres. Il y a des échanges, il y a un brassage culturel, il y a un dynamisme culturel. On est proche de tout, on peut circuler facilement, donc on pouvait circuler facilement.
On y reviendra.
C'est vraiment une ville à laquelle je suis très attachée. Et depuis quelques temps, je fais un constat qu'on est sur une pente glissante, et de plus en plus glissante, et de plus en plus pentue. Voilà. Et au bout d'un moment, à force de râler, avec mes clients, avec mes amis, en famille, je me suis dit, mais là, on va arrêter de râler, parce qu'en restant dans notre canapé ou derrière notre bureau à râler, on ne fait pas avancer les choses. Voilà. Et qu'il est temps de prendre les choses en main et de s'investir pour se dire qu'on va amener sa pierre à l'édifice et qu'on va tenter de faire bouger les lignes parce qu'on ne peut pas éternellement accepter ce que l'on vit aujourd'hui à Montpellier.
D'accord. Alors, bien sûr, on va parler de tout ça. Je vais vous interviewer sur pas mal de choses. D'abord, sur les transports. Je suis montpelliérain, j'ai été choqué par cette gratuité des transports, parce que je crois que la gratuité, ça n'existe pas, c'est toujours quelqu'un qui doit la payer. Est-ce que vraiment on avait besoin de faire ça, quand on sait que quand même on a des ouvriers qui viennent de Moggio, qui viennent de Frontignan, qui viennent pour travailler sur Montpellier, qui sont obligés, enfin qui ont été obligés de revoir à la hausse leur ticket de transport.
Alors moi, j'ai envie de vous dire, déjà, je vous coupe la parole une minute. On a des ouvriers qui venaient. On va en reparler dans deux secondes. D'accord. Ils ne viennent plus à Montpellier.
D'accord. Et alors, je trouve que ce n'est pas de la gratuité.
Alors déjà, ce n'est pas de la gratuité. C'est un service qui est offert. Voilà, première chose. Parce qu'effectivement, ce service a un coût. Son coût a été estimé par la Cour des comptes à 42 millions d'euros. D'accord. Ça veut dire que la TAM se prive d'une recette de 42 millions d'euros par an, qui est énorme.
Colossal.
Voilà. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas comment la métropole va arriver à l'absorber sans augmenter les impôts. Ça ne me semble pas possible. Ces 42 millions d'euros par an, ce sont les recettes du réseau tel qu'il existait et tel qu'il existe aujourd'hui, sans la ligne 5 de tram, sans les lignes de bus à haut débit. Mmh. Parce que plus vous allez mettre de transport en commun, plus ça va coûter cher, puisque plus théoriquement on a deux personnes qui les prennent. D'accord ? Cette gratuité, elle a été mise en place de façon très dogmatique, en indiquant que si le transport en commun était gratuit, il y aurait plus de personnes qui le pratiqueraient. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand vous en parlez avec les gens qui prennent le tram de manière régulière, ils vous disent qu'il n'y a pas plus de monde aujourd'hui que ce qu'il y en avait avant la gratuité.
Ah bon, d'accord. Okay. Moi, vous voyez, je pensais, Madame Perrin, que c'était pour réduire massivement le nombre de voitures sur Montpellier. J'ai écouté des reportages sur d'autres villes qui avaient fait la gratuité il y a quelque temps, et le nombre de voitures a diminué que de 8%, donc n'a pas chuté. Donc je pensais plutôt que on en était là, c'est-à-dire que en somme, on le verra peut-être dans quelques années, le nombre de véhicules n'aura pas baissé considérablement, malgré la gratuité. Mais vous me dites que vous-même, ça ne va pas augmenter le nombre d'usagers tram.
Exactement. Parce que si vous voulez, en fin de compte, que les personnes prennent les transports en commun, il vous faut un transport en commun de qualité. Donc un transport en commun de qualité, c'est quoi? C'est déjà des grosses fréquences, d'accord? C'est tous les quartiers des services, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et après, c'est de la propreté, c'est de la sécurité. Quand vous voyez la campagne de pub qui est en place actuellement sur la ville, Je pense qu'il y a de gros soucis en ce moment en matière de sécurité et d'incivilité dans les transports en commun. Donc tant que vous n'aurez pas un transport en commun qui vous offre un vrai service public de qualité, les gens ne le prendront pas plus qu'avant.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire, Madame Perry?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la mise en place de la gratuité des transports, il y avait toute une population qui bénéficiait d'aide. Cette population-là, elle ne payait pas ou très peu le coût des transports en commun. Par exemple, un chômeur, le transport en commun, ça lui coûtait environ 3 euros par mois. Il me semble-t-il, cela reste acceptable. Voilà. Donc, plutôt que de dire on fait la gratuité, que selon l'âge, que selon le milieu social, il y ait de la gratuité ou il y ait en tout cas un prix minimum, ça c'est acceptable. Par contre, que des gens comme vous, que des gens comme moi, que des gens qui ont un revenu ne paient pas, de toute façon, ils paient au travers leurs impôts. Donc, ce qu'on ne leur donne pas dans un ticket, ce qu'on ne leur fait pas donner par un ticket, on va le faire en augmentant les impôts. C'est du dogmatisme et c'est se foutre des gens, tout simplement.
D'accord, très bien. Sur les incivilités, on remarque là, depuis 3 semaines, un mois, vraiment énormément d'incivilités à destination des chauffeurs de la TAM. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a quand même une police. Une éducation, comment on peut le gérer?
Alors,
ça
nous pensons, Alerte Montpellier, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je suis présidente d'une association qui s'appelle Alerte Montpellier, nous pensons, et je pense personnellement aussi, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de personnel de police municipale en place.
D'accord, donc vous pensez que...
Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire que quand vous faites de la police, il y a l'éducation, c'est-à-dire la prévention, l'éducation et la répression. Et là, on voit bien qu'ils se sont mis sur un mode prévention en faisant de la pub. Et pour la répression, à mon avis, il n'y a pas assez de monde aujourd'hui. Et tant qu'il n'y aura pas assez de monde, tant qu'il n'y aura pas des amendes qui seront délivrées et qui seront exécutées, les gens continueront à faire n'importe quoi. Tant qu'on ne fera pas payer les gens ne respecteront pas le transport en commun parce qu'on sait que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ça, c'est une réalité.
On va prendre la pause musicale et on reviendra après avec vous sur les problèmes des Montpellierains. Madame Perrin, vous avez choisi comme chanson
Ma liberté de Serge Reggiani.
Est-ce qu'il y a un message à faire passer à nos auditeurs?
Alors, le message, c'est que j'ai un père spirituel qui n'est plus là aujourd'hui, qui me manque énormément et qui m'a toujours dit de rester libre. Et ça, quoi qu'il se passe avec mon avenir politique, je resterai libre. C'est important.
Très bien. Merci pour le message. On écoute donc la chanson Le choix de Madame Perrin et on se retrouve tout à l'heure sur FM+.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour.
Voilà, eh bien, chers auditeurs, on revient avec Madame Perrin. Une femme libre et une femme donc qui s'intéresse à la ville de la cité. Alors, allez-y. Comment c'est venu votre...
Alors, comme je le disais, bon, c'est venu d'un constat. On est quand même beaucoup à faire ce constat-là d'une dégradation globale. Alors, il y a ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit, c'est des routes défoncées, des trottoirs sur lesquels on peut trébucher tous les jours, des ordures ménagères à tous les coins de rue, des rues sales, beaucoup d'insécurité, des difficultés d'accéder à la ville, pour ne pas dire une ville inaccessible, des difficultés pour parquer sa voiture, parce qu'il faut rappeler quand même qu'au 31 mars, donc c'est demain, au total dans cette ville, on aura supprimé 450 emplacements de parking dans le centre-ville et aux Arceaux, ce qui n'est quand même pas rien.
C'est la mort du centre-ville ?
C'est la mort programmée du centre-ville. Les commerçants, quand vous discutez avec eux, que ce soit les Arceaux ou que ce soit le centre-ville, vous disent qu'ils ont perdu 30% de chiffre d'affaires quand on a fermé le tunnel de la Comédie. Là, si on peut plus se garer, ça va encore baisser. Et quand je vous dis les commerçants du centre-ville, lundi, je discutais avec des commerçants qui n'étaient pas du centre-ville, eux aussi sont en perte de chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, on ne peut plus circuler à Montpellier. Leur clientèle leur dit que c'est plus facile pour eux d'aller à Nîmes, d'aller à Béziers, que c'est plus facile de partir à Marseille ou à Aix. Donc tout cet argent-là qui n'est plus dépensé chez nous, c'est autant d'impôts qui n'est pas collecté par la collectivité. Et ça, avec beaucoup de dogmatisme, on fait baisser le montant de la collecte d'impôts et donc la capacité de la ville et de la métropole à faire des projets pour le compte des citoyens.
Vous pensez que c'est un dogme de la part de notre maire actuel ?
Oui, je pense que réellement c'est un dogme. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, on l'a dit tous les deux, et on le voit sur les villes qui l'ont mis en place, c'est pas parce que vous voulez forcer les gens à prendre le transport en commun qu'ils vont le prendre. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que la voiture polluante, c'est un discours qui est has-been. Alors pourquoi c'est un discours qui est has-been ? Pour deux raisons. Parce que premièrement, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de voitures électriques. On ne va pas parler des artisans, on va en parler après, parce que ça, c'est encore une autre problématique. Et aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises, dont une start-up montpelliéraine, qui travaille sur la mise en place de filtres qui sont, pour certains, des filtres qui sont faits avec des plantes naturelles, qui permettraient de filtrer les particules polluantes des pots catalytiques. Donc ça veut dire qu'entre la croissance qui va en augmentation du nombre de véhicules électriques et le fait que petit à petit, nous allons avoir des voitures à essence ou à gasoil qui seront moins polluantes. La pollution émise par les véhicules, c'est un faux problème. En fin de compte, aujourd'hui, c'est un faux problème. Après, le citoyen doit pouvoir circuler librement. C'est-à-dire que je dois pouvoir décider de marcher, de faire du vélo, de prendre le transport en commun ou de prendre ma voiture. Ne serait-ce que parce que, en fonction de mon âge, de mon handicap, de ma profession, du nombre d'enfants que j'ai amenés le matin à l'école et des écoles où je dois les amener, ben je dois pouvoir avoir mon véhicule, tout simplement.
Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, et qu'est-ce que vous proposerez si vous êtes élu maire de Montpellier dans 2 ans ?
Alors déjà, je proposerai d'arrêter la politique du contre, c'est-à-dire le vélo contre la voiture, le piéton ou le vélo contre le piéton. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du vélo, on parle beaucoup de la voiture, personne ne parle du piéton. Moi, j'ai quand même le sentiment que le piéton est le grand oublié du plan de circulation. Ça, c'est la première chose. Le piéton est la personne à mobilité réduite. Hein, parce qu'entre l'état des trottoirs et le fait que les trois quarts des transports en commun sont difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, là, je parle des personnes qui sont en fauteuil, ça devient compliqué. Quand on ferme, pour finir avec les personnes à mobilité réduite, quand on ferme le parking des Arceaux, on empêche certaines personnes à mobilité réduite qui ont l'obligation d'avoir des véhicules relativement hauts à pouvoir venir en voiture en centre-ville. Parce qu'ils ne pourront pas se garer dans les parkings souterrains, les véhicules sont trop hauts. Ça, personne n'y a pensé. Et ça, c'est scandaleux. Parce que tout le monde doit pouvoir circuler librement, et encore plus une personne qui a un handicap que quelqu'un qui est sur ses deux jambes.
Personne n'y a pensé ?
Ah ben, je pense que personne n'y a pensé, puisqu'il n'y a pas de solution alternative.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et ça, ça leur pose un problème. Il y a des, certaines personnes handicapées qui m'en ont parlé. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme travail à Alerte Montpellier aujourd'hui par rapport à la circulation ? On est en train de travailler sur un plan de circulation pour réouvrir certaines artères, pour désengorger les quatre boulevards. Parce que je suis désolée, mais basculer toutes les voitures sur les quatre boulevards, ce n'est pas un acte écologique. Ce n'est pas du tout un acte écologique. Voilà. Et maintenir cette position, c'est scandaleux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, des pistes cyclables, il doit y en avoir. Voilà, parce que on va vers des mobilités qui vont être des mobilités plus douces. Mais elles doivent être implantées de manière rationnelle et efficiente. C'est efficiente. C'est-à-dire que si on veut que les gens prennent leur vélo, il faut qu'ils puissent circuler dans des bonnes conditions, pas au milieu des voitures, pas entre deux bus, et il faut aussi qu'ils puissent parquer leur vélo de manière sécurisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
D'accord. Donc il faudrait revenir, Madame Perrin, à du bon sens, c'est-à-dire redonner un équilibre général.
Exactement, vous avez dit le bon mot, l'équilibre.
L'équilibre. Donc un équilibre sur toutes les parties de mobilité, le vélo, le piéton, le bus.
Exactement.
Et la voiture.
Et pour le bus, nous pensons que ce qu'il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un transport public qui est efficient, c'est-à-dire un transport public qui, outre dans ses amplitudes horaires, desserve aussi très bien tous les quartiers de la ville. Ça veut dire qu'il faut que sur les différents arrêts de tram, en fonction des arrêts où il y a beaucoup, beaucoup de monde, il faut que plutôt que d'avoir des gros mastodontes de bus, on ait des minibus qui irriguent très bien tous les quartiers.
Mais il va y avoir le bus tram.
Oui, mais le bus tram, ça reste un gros bus et ça ne va pas irriguer tous les quartiers. Ça va circuler sur un schéma bien précis. Si vous prenez des petits bus qui s'arrêtent aux gros arrêts de tramway et qui partent dans les quartiers pour irriguer correctement 100%
l'ensemble des quartiers montpelliérains,
là, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir les montpelliérains qui prennent le bus et qui prennent le tram.
D'accord. Donc ça, c'est des projets que vous...
Sur lesquels nous travaillons aujourd'hui à Alerte Montpellier. Et d'accord. C'est des projets que nous, quand ils seront aboutis, que nous présenterons à la population.
Très bien. Alors, je voudrais vous parler de la collecte des poubelles. Parce que je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. On avait reproché à Philippe Sorel, l'ancien maire de Montpellier, en disant que Montpellier était une ville sale. Et bien sûr, entre-temps, il y a eu une élection municipale. Et franchement...
Elle n'est pas meilleure.
Je ne vois pas. Alors, je dis moi, malheureusement, mais c'est beaucoup de Montpelliérains qui disent « je ne vois pas quelque chose qui a changé ». Et en plus, depuis le 5 juin, alors je voudrais vous faire réagir là-dessus, depuis le 5 juin de l'année dernière, donc une nouvelle politique de ramassage des poubelles, il y a des quartiers, je tairai le nom, du quartier du quartier de la Chamberthe, qui se plaignent énormément que les poubelles jaunes ne sont pas systématiquement ramassées. Alors, pourquoi ça ? Est-ce que c'est justement par rapport à la gratuité, entre guillemets, du bus, on essaye de gagner un peu de sous sur d'autres secteurs tels que le nettoiement ? Qu'est-ce
Alors,
que vous en pensez ?
Déjà, globalement, moi ce que je vous dirais, c'est que on avait peut-être une ville sale avant 2020, on a une ville encore plus sale depuis 2020. Voilà, ça c'est une réalité, d'accord. Deuxième réalité, il est clair que quand vous vous mettez à perdre beaucoup d'argent sur un service public, de toute façon un service public n'est jamais rentable, d'accord. Mais la TAM perdait déjà de l'argent avant la mise en place de la gratuité et elle en perd encore plus aujourd'hui. Voilà. Donc quand vous mettez à perdre de l'argent sur un service public, vous dégradez toute l'offre de service public. Et on le voit d'ailleurs, on le voit au niveau du ramassage des ordures ménagères, on le voit au niveau du nettoyage des rues, il y a certaines rues qui ne sont plus nettoyées à Montpellier, les commerçants
se plaignent. Et pourtant les impôts fonciers sont là. Hein.
On le voit au niveau de l'état de nos routes, on a des nids de poules de partout, c'est l'enfer. On le voit aussi au niveau de la qualité et du rythme du ramassage des ordures ménagères. On le voit au niveau de la fermeture des crèches. On a quand même appris, il n'y a pas si longtemps que ça, un jeudi soir, que le vendredi matin, il y avait certaines crèches qui étaient fermées. Il y a quand même un souci global. Donc, est-ce que ce souci-là est lié au fait qu'on a un service public des transports qui coûte trop cher et du coup qu'on rogne sur les autres services publics ou est-ce que le fait d'une équipe qui, globalement, ne sait pas anticiper les choses, on peut se poser les questions.
D'accord. Ok. La circulation. Alors, on a parlé de la circulation, mais vous vouliez parler tout à l'heure des artisans.
Oui. Alors, je voulais parler des artisans à cause de la ZFE. Bon, déjà, vous avez vu dernièrement qu'on a quand même une très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus que Paris et Lyon qui ont l'obligation d'appliquer la ZFE. Oh ben ça, les autres grandes
métropoles, les auditeurs vont être contents.
Les autres grandes métropoles n'ont plus l'obligation d'appliquer la ZFE. Encore faut-il que l'équipe en place accepte de ne pas l'appliquer.
Ah, c'est
alors
pas...
pourquoi je vous parle
c'est
de
pas automatique.
Ça pourquoi je vous parle de ça parce que dernièrement je consulte toutes les personnes importantes de notre métropole et dernièrement j'ai consulté Christian Poujol qui est le président de la Chambre des métiers. Il m'a fait part des difficultés de ces artisans, quand même, de mémoire 45 000 artisans sur le département, qui n'arrivent plus à accéder au centre-ville. Alors, pour deux raisons, parce qu'ils n'ont pas le véhicule adéquat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le véhicule soi-disant pas polluant, et à cause aussi des problématiques de transport et des problématiques de stationnement. Parce que non seulement ils n'ont pas le véhicule, mais en plus ils mettent deux heures ou plus à accéder au centre-ville. Quand ils y accèdent, ils ne peuvent pas se garer et ils ne peuvent rester que deux heures en centre-ville. Donc, moralité des choses, vous voulez un artisan en centre-ville, ben vous pouvez en appeler beaucoup avant d'en trouver un, d'accord ? Et quand vous en trouvez un, et ben inévitablement, toutes ces difficultés-là, là, vous allez les payer. On va vous les facturer et c'est normal parce que le temps... Ben, c'est de l'argent pour l'artisan. Donc c'est tout à fait normal. Et empêcher les artisans d'accéder au centre-ville, c'est les empêcher de travailler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces artisans-là, en fin de compte, ils n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule électrique. Alors, je ne vous parle pas de moyens financiers. Ce que je veux vous dire, c'est que techniquement, aujourd'hui, un Renault Trafic ou tout ce que vous voulez comme autre, on va dire, camion d'artisan, ça n'existe pas en version électrique. Ce n'est pas possible. Monsieur Poujol l'a vérifié. Donc ça veut dire qu'on les sanctionne et ils sont punis, parce que moi j'estime qu'ils sont punis, sans raison, parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter. Enfin, quand on leur demande de s'adapter à une politique à laquelle ils ne peuvent pas s'adapter, parce que techniquement, ils n'ont pas les outils à leur disposition pour pouvoir venir travailler en centre-ville.
Est-ce que ça veut dire que la gauche, depuis un certain temps, ne parle plus au monde du travail ?
Alors moi, j'ai l'impression qu'effectivement, le monde économique est également un monde oublié, tout comme le piéton, tout comme l'automobiliste.
D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la ZFE ?
Non, pour moi, le sujet est clos. Si ce n'est que, effectivement, si je suis élue en 2026, à moins qu'elle ne soit imposée et sanctionnée sur toutes les métropoles de France, ça ne sera pas le cas à Montpellier, elle n'y sera pas.
D'accord, ok. Je voudrais qu'on parle de l'assainissement. Il y a un sujet important avec Maïra. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que le maire a augmenté la capacité de traitement. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ?
Alors honnêtement, ce n'est pas encore un sujet que je maîtrise. Donc nous en reparlerons une autre fois si vous voulez bien.
D'accord, très bien. Par contre sur l'eau, parce que moi je suis très attaché à ça... Comment on pourrait faire un peu dans Montpellier pour récupérer de l'eau pluviale, si c'était possible de le faire. Parce que moi, je trouve que quand à la télévision, on a vu ces images dans le nord de la France, où ces villages étaient traversés par des flots,
des torrents
d'eau, et qu'on sait très bien que cette eau ne sera pas récupérée, elle ira progressivement à la mer, nous sommes dans le nord de la France, mais dans le sud, où il pleut. Très très peu. À Perpignan, ça fait pratiquement 2 ans qu'il n'a pas plu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de... Alors, je sais bien que c'est des questions qu'on se pose beaucoup, que les gens se posent beaucoup, les Français, mais comment on pourrait faire pour récupérer cette eau ou de l'eau ? Est-ce que vous avez l'idée ? Alors, je veux bien qu'on soit sur les bassins versants, mais comment on pourrait faire ?
Alors, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement. Ça fait partie des pistes de travail que j'ai données à mes équipes. Après, je pense qu'il y a deux types de pluie, c'est-à-dire qu'il y a la pluie qui est constante et qui permet de rétablir nos nappes d'eau, nos nappes phréatiques. Et donc, ça, c'est important. Et après, effectivement, on a nos gros épisodes cévenols où, au final, on perd le bénéfice de cette eau qui n'a pas le temps de s'infiltrer. Donc, peut-être, alors je dis bien avec beaucoup
de retenue.
De retenue, voilà. Peut-être faut-il penser à des solutions de récupération ou de rétention de ces eaux-là, de manière à s'en resservir après, ne serait-ce que pour les arrosages, les espaces verts, le nettoyage des rues, des choses comme ça.
Mais comment ça se fait qu'en France, on a pris du retard. Je vois, par exemple, on est à peu près à 1 ou 2% de récupération d'eau usée pour les arrosages de la végétation. Alors qu'en Espagne, alors peut-être, bien sûr, ils souffrent beaucoup plus de la chaleur et depuis plus longtemps que nous, ils sont à 10, 12%. Je ne parle pas d'Israël qui est à 50%. Comment ça se fait? Alors quand on sait que l'eau... Moi, je me rappelle, j'avais lu un bouquin il y a une quinzaine d'années où l'auteur avait terminé en disant le seul enjeu du XXIe siècle, ça sera l'eau, la gestion et le partage de l'eau. Comment on arrive à avoir un tel retard?
Alors je pense, alors on ne va pas parler de la France, mais on peut aussi parler de notre territoire, hein, tout simplement, c'est que globalement, on est plus en réaction qu'en action. Voilà. Et on est sur une équipe aujourd'hui municipale et métropolitaine qui se dit très écologiste. Bon, ça, ce sont des sujets, moi, j'en ai pas entendu parler. On aurait dû en entendre parler, par exemple. Il y a peut-être aussi une manière de faire les espaces verts sur l'espace public, de manière à ce qu'on ait des espaces verts qui ne consomment pas trop d'eau. Il y a peut-être une manière de sensibiliser les Montpellierains, les métropolitains à l'usage de l'eau, sans les sanctionner. Peut-être qu'il y a d'autres façons d'éduquer les gens, de les sensibiliser. Tout ça sont des sujets sur lesquels on travaille, particulièrement la sensibilisation à l'utilisation personnelle de l'eau. Mais je vous dévoilerai pas plus les choses, parce qu'on est au début de notre travail. Mais
bien sûr. Donc quand même là, on pourrait dire plus d'éducation dans la gestion quotidienne des habitants.
Alors moi, je vous dirais que ce que je veux, c'est une ville et une métropole écologique, mais réellement écologique, voilà, où chacun va y retrouver du sens.
D'accord. Je voudrais vous faire agir, il nous reste à peu près 3 minutes, vous aurez votre conclusion. Je voudrais vous faire réagir sur l'insécurité à Montpellier. Alors, je sais que bon, l'insécurité, ça ne dépend pas forcément des compétences du maire, mais au niveau gouvernemental, il y a de plus en plus d'insécurité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il y a deux choses. Il y a le sentiment d'insécurité et l'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure, la qualité de l'espace public. Voilà. Après, l'insécurité, c'est toutes les agressions. Et c'est vrai que quand vous lisez le Midi Libre, je pense que nous avons en moyenne rien que 3 ou 4 agressions qui sont reprises systématiquement par le Midi Libre. Et ça, c'est certainement juste la partie immergée de l'iceberg. Nous ne voyons pas tout. Voilà. Donc, ce sentiment d'insécurité ou cette insécurité réelle, on doit la combattre parce que le citoyen a le droit d'être en sécurité sur l'espace public. L'espace public est un bien qui est collectif, qui nous appartient et dans lequel on doit pouvoir déambuler sans avoir peur, quel que soit notre âge et quel que soit notre sexe.
Parce que ce n'est pas évident. Quand vous sortez à 11h du soir du théâtre ou d'un cinéma pour rejoindre la voiture, ce n'est pas évident. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme.
Et selon l'âge que vous avez, moi je dis personnellement, j'ai 2 jeunes adultes qui ne sont pas tout le temps à la maison, mais ils sont encore là de temps en temps. Et quand ils sortent, personnellement, tant qu'ils ne sont pas rentrés, je ne suis pas tranquille. Et comme je leur dis régulièrement, le problème ce n'est pas eux, c'est ce qui peut leur arriver et ce qu'on peut leur faire. Personnellement, j'ai un chien aussi depuis quelques temps qui m'accompagne de partout, et c'est vrai que le soir, quand je dois remonter ou traverser la place de la Comédie, remonter la rue de la Loge avec mon chien, je me sens un petit peu plus en sécurité.
Et bien. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Votre conclusion. Donc, vous allez vous battre, vous avez encore 2 ans à vous battre.
Alors, je veux me battre avec et pour les Montpelliérains, ça d'accord, c'est nécessaire. Le projet que je veux mener à terme, c'est un projet pour Montpellier, pour la métropole et pour les habitants de Montpellier.
D'accord. À travers des réunions, comment vous allez procéder?
Alors, on est déjà, vous me dévoilez votre stratégie. On est déjà organisé. Donc, on a des groupes de travail qui travaillent à peu près sur tous les sujets qui existent, qui travaillent de manière très pratique, c'est-à-dire qu'on part des problèmes pour trouver des solutions que l'on peut mettre en place. Des groupes de travail qui se posent la question aussi de comment tout cela va pouvoir fonctionner ensemble. comment on va pouvoir faire en sorte de s'enrichir pour pouvoir développer
tous
nos projets.
Par quartier.
On travaille beaucoup sur l'identité, parce que je pense qu'on a tous besoin de se retrouver dans nos quartiers. On travaille beaucoup sur le lien social, parce qu'on a tous besoin de lien social aussi. Ça, c'est important.
Très bien. Je vous remercie. Bonne chance
à vous. Merci de m'avoir reçu.
Je vous en prie. Bonne chance à vous dans votre travail. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vais rendre l'antenne. Alors, juste une petite chose avant de remercier mes collègues de la technique. Ce week-end, vous avez au Kawa, parce qu'il faut quand même bien aussi rigoler de temps en temps. Donc, c'est le Kawa, c'est un café-théâtre, c'est le plus ancien de Montpellier. Vous avez une pièce de théâtre, c'est le clan des Chieuses. C'est tout un programme. Donc, vous les avez ce soir, vous les avez vendredi, et vous les avez samedi et dimanche. Pour dimanche, ça sera dans l'après-midi. Et vous avez donc demain jeudi une conception originale du Kawa, c'est par ici la sortie. Voilà. Donc ce week-end, vous pouvez le passer, malgré le sale temps qui nous attend, vous pouvez le passer donc à rigoler. Voilà. Moi, je vous remercie. Je remercie encore Isabelle Perrin. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Si l'on en pensait, toujours en direct et sur FM+. Et je vous souhaite une agréable après-midi. Au revoir.
Merci.